Et on reste avec toi, Marie, et Nicolas nous a rejoints dans le studio parce qu'il est 20h15 et qu'il est l'heure d'une revue de presse. Et comme c'est un grand direct, le grand direct de la Saint-Valentin, cette revue de presse, vous la faites tous les deux à quatre mains.
Voici la revue de presse. Bonjour Bruno Duvic.
Bonjour à tous.
L'hyper revue de presse.
La revue de presse dans les journaux.
La revue de presse.
La revue de presse qui fait parler et qui vous fait réagir, c'est avec Natacha Polony.
Revue de presse française. Et on commence cette revue de presse avec... Alors, c'est la Saint-Valentin et Nicolas va vous en parler, mais dans les journaux, on parle quand même beaucoup de la terrible menace d'un virus mondialisé, le coronavirus, et tremble et mortel, car le traitement du sujet dans la presse a des airs de film.
Des airs de film de science-fiction d'abord ?
Oui, un film dans lequel on peut être tué rien qu'en sortant de chez soi. Comme ce commercial nord-coréen qui, après son retour de Chine, a voulu se rendre au bain public et a tout simplement été arrêté et exécuté. C'est dans le Daily Mail. Un film aussi dans lequel les médias renvoient l'image d'une catastrophe mondiale. Je vous épargne la litanie de chiffres qu'on trouve dans tous les journaux. L'épidémie a fait 1380 morts en Chine continentale, 63 851 personnes sont contaminées. Un film également qui pourrait ressembler à un « Je suis une légende » contemporain. Car on nous rappelle que l'épidémie pourrait entraîner des problèmes d'approvisionnement de médicaments en Europe, une grande partie des principes actifs étant fabriqués en Asie. Un film de science-fiction aussi, avec des drones qui pulvérisent des désinfectants en ville ou sont équipés de mégaphones pour diffuser des messages de prévention. Un film aussi dans lequel plane la menace de pertes économiques considérables. 4 milliards de dollars de pertes pour les compagnies aériennes contraintes d'annuler leurs vols, nous dit Libération. La Chine tousse, le monde s'enrhume, titre le New York Times, qui rappelle que si l'épidémie de SARS avait eu peu d'impact sur l'économie, la Chine entre-temps a doublé sa part dans le commerce mondial et est devenu un des rouages clés de l'économie planétaire. Donc, comme le pays est au cœur des chaînes de valeur, le virus pourrait avoir des retombées ravageuses des chaînes d'assemblage automobile américaines aux usines textiles du Bangladesh, merci la mondialisation.
Oui, le coronavirus y fait aussi un peu penser à un film d'espionnage, non ?
Eh oui ! Où est donc Chen Qiushi, ce blogueur chinois qui enquêtait sur le coronavirus et avait visité des hôpitaux, filmé la pénurie de matériel, les supermarchés déserts ou les familles de victimes ? Eh bien, depuis une semaine, il a mystérieusement disparu. Les autorités chinoises affirment qu'il a été mis en quarantaine pour avoir passé trop de temps dans les hôpitaux de Wuhan, un prétexte qui ne convainc personne. Et dans Courrier International, on s'attarde sur une autre figure, Li Wenliang, un des 8 médecins à avoir alerté de l'existence de l'épidémie. Ce lanceur d'alerte est devenu vitrine de la répression de la liberté d'expression, dans un pays où les citoyens critiquent le règne du mensonge et l'hypocrisie. Mais on pourrait aussi croire à un film historique. Historique car on voit ressurgir un racisme qu'on aurait cru disparu depuis longtemps. Le Courrier Picard titre « Alerte jaune » et mentionne dans son édito « Un péril jaune ». En Allemagne, c'est carrément la une d'un quotidien national qui fait polémique. Le Spiegel a titré, sous une photo d'un homme équipé d'un masque et de lunettes de protection, « Coronavirus, made in China, quand la mondialisation devient un danger de mort ». L'Obs nous informe aussi qu'en Malaisie, 500 000 personnes ont signé, en une semaine, une pétition pour, je cite, « empêcher les Chinois d'entrer dans notre pays bien-aimé ». À Sydney, un homme d'origine chinoise est mort après s'être évanoui dans la rue. Les passants avaient refusé de l'aider, le croyant porteur du virus. Et en janvier, une vidéo montrant une jeune femme dégustant une chauve-souris avait alimenté, sans jeu de mots, les critiques envers les habitudes alimentaires des Chinois, jugées répugnantes et responsables de la propagation du virus. Un des nombreux cas, relaté sous le hashtag « Je ne suis pas un virus », sous lequel les personnes asiatiques témoignent du racisme qu'elles subissent au quotidien. Un article paru sur Slate précise quand même que le virus n'a fait que révéler un racisme anti-chinois latent et directement issu des théories du 19e siècle, le siècle des guerres de l'opium et des traités inégaux, présentant les Asiatiques comme cruels et barbares. D'ailleurs, ce racisme réveillé par la peur de l'épidémie rappelle les massacres de juifs entrepris au XIVe siècle, alors que la peste exigeait qu'on le trouve à bouc émissaire.
Et tout ça, ça me fait aussi penser à la littérature.
Oui, face à cette crainte de l'épidémie, on peut penser au hussard sur le toit de Giono. Mais ici, la toile de fond, ce n'est pas les paysages de Provence, mais bien la société asiatique, pour laquelle l'épidémie est perçue d'une manière toute particulière, nous apprend Le Monde.
Qu'est-ce que tu veux dire par là ?
Eh bien, dans la Chine ancienne, les épidémies étaient vues comme des signes envoyés par les dieux pour montrer que l'empereur n'était plus légitime. La propagation d'une maladie était l'un des seuls cas où l'on pouvait écarter l'empereur, d'où la nécessité pour ce dernier d'endiguer le mal au plus vite. Un peu comme Xi Jinping finalement, qui nous rappelle le monde diplomatique, joue ici son image face à l'Occident.
Et justement, est-ce que l'épidémie a révélé les failles du système chinois ?
Eh bien oui, c'est l'analyse d'ailleurs que nous livre Le Monde. Ce seraient les trois mots du régime chinois qui auraient contribué à la propagation du virus. Corruption, obsession de l'image de l'État parti et contrôle de l'information. Ont également été mises au jour les insuffisances du système de santé chinois, fragmenté et inégalitaire, avec des médecins qui gagnent parfois plus d'argent grâce au pot de vin des clients que grâce à leur salaire. Pour finir, le Washington Post note qu'à l'époque, on croyait aussi que l'épidémie était envoyée par le grand empereur de Jade, qui comptait, dans son royaume céleste, un ministère des épidémies, dont les bureaucrates envoyaient le mal sur Terre en fonction des bonnes ou mauvaises actions des hommes. On faisait alors, à l'époque, des processions pour repousser les démons épidémiques. Aujourd'hui, les démons à repousser seraient plutôt ceux du mensonge, du racisme et de la corruption. Vaste programme.
Ok, bon les amis, c'est quand même la Saint-Valentin. Nicolas, est-ce que tu nous as dégoté des infos un peu sur l'amour, tout ça ?
Désolé de vous décevoir, mais en ces temps incertains, même les mariages sont entachés de l'empreinte coronavirale. L'Obs, dans un article titré « Mariage collectif chez les moonistes malgré le virus », narre l'histoire d'une cérémonie géante de mariage organisée en Corée du Sud par l'église de l'unification, église qui a plus ou moins pour seul but d'organiser ces cérémonies. Un mariage réunissant près de 6000 couples venus de 64 pays, le visage est bien parfois dissimulé sous un masque sanitaire. Cérémonie qui d'ailleurs a failli être annulée, mais au vu d'un contexte très particulier puisqu'elle a été organisée pour le 100e anniversaire de la naissance de son « messie » entre guillemets controversé, car plus businessman enseveli par d'innombrables affaires de corruption que modèle religieux. Et oui, il faut bien avoir un « mindset » comme on dit d'entrepreneur pour organiser des cérémonies comme ça. Bon, l'église a quand même prié les fidèles attendus de Chine de ne pas venir, selon un de ses responsables.
Et est-ce que tu aurais quand même une petite histoire d'amour qui finit bien ?
Ah ouais, ouais, j'ai une belle histoire de Saint-Valentin. Il faut d'abord imaginer Isabelle Balkany, en pantalon jaune, polaire
est-ce
marron.
Est-ce que c'est une belle histoire de Saint-Valentin ?
Attends, on commence. Imaginez juste, voilà. Okay. Rêvez, voilà.
On ferme les yeux dans le studio et on imagine.
Isabelle Balkany. En pantalon jaune, polaire marron et lunettes de soleil sur le nez, appuyé contre le capot de la voiture de son fils, une Mini. Son fils s'appelle Alexandre, je sais pas si ça peut vous aider, mais pour rentrer dedans. Et oui, bon, ça y est, la première adjointe de Levallois-Perret, mère par intérim depuis l'incarcération de son mari, après sa condamnation à 4 ans de prison ferme pour fraude fiscale, attend enfin la sortie de son époux devant la prison parisienne de la santé. Et ça s'est passé hier en fin d'après-midi. Isabelle Balkany a en fait pensé à cette mise en scène, commente Boris Karlamov, auteur de la photo au Huffington Post. Il y avait plein de caméras braquées sur elle, donc, à mon avis, elle sait très bien ce qu'elle faisait, l'image qu'elle renvoyait. La scène a duré entre 20 et 30 minutes, dit-il, où elle a enchaîné les coups de fil et les clopes, adossée seule sur le capot de la voiture de son fils. Bref, il fallait bien que pour un énième épisode de l'affaire Patrick Balkany, cette fois libéré grâce à un certificat médical, et je dois d'ailleurs dire que même au Monopoly, ils n'ont pas pensé, le niveau de drama soit à son comble à Levallois.
Attends, mais dis-moi, Nicolas, c'est où déjà Levallois ?
Ah, mais c'est très simple ! Si Paris est un escargot, alors Levallois, c'est une injection de Botox aux extraits d'escargots. Mais Levallois, c'est pas loin non plus de Saint-Ouen, autre banlieue parisienne considérablement moins chic, où l'on apprend dans les Inrocks que se trouvent les cuisines Deliveroo qui existent depuis 2018. Suivant le modèle anglais, la plateforme de livraison a en effet décidé d'ouvrir ses propres cuisines afin de louer aux restaurateurs les locaux et les équipements présents sur place contre une partie de leur chiffre d'affaires. Une démarche très critiquée, vous pouvez l'imaginer, à la fois pour les conditions de travail des cuisiniers travaillant dans les locaux et l'impact de telles cuisines sur les restaurants présents dans le secteur. Et le CLAP, collectif de livreurs autonomes parisiens, qui a annoncé il y a quelques jours devenir un syndicat, a lancé ce mercredi un appel au boycott afin qu'un blocage des cuisines Deliveroo pour la Saint-Valentin, jour où, bien sûr, les livraisons se font particulièrement nombreuses, afin de répondre aux revendications des livreurs. Sur France Info, le porte-parole du CLAP, Jérôme Pimaud, précise que le boycott vise à réclamer des réponses concrètes, je cite, sur la tarification, les distances des courses et la mise en place d'instances de dialogue. CLAP de début, du coup, pour cette affaire, reste à voir ce que ça donne.
Et donc, tu nous as emmenés à Saint-Ouen, à Levallois-Perret. Emmène-nous à Paris, la ville de l'amour, du romantisme. Ça donne quoi, là-bas, la Saint-Valentin ?
Eh bien, un des symboles les plus dégoulinants de romantisme stéréotypé à Paris, le Pont des Arts, juste à côté de Notre-Dame, où des couples ont pour habitude de sceller des cadenas, a été réapproprié par les Femmes, groupe de militantes féministes plutôt aujourd'hui, relate Brut, un live Facebook. Si Facebook était un livre, eh ben, ça s'appellerait vraiment
ça serait.
Ce serait juste un bouquin. Bon, revenons sur les Femmes. On ne tue jamais par amour. Pour le meilleur, pas pour le pire. ou « Je ne t'aime pas à en mourir », ce sont les citations qu'on peut lire sur les bustes des militantes qui se sont elles-mêmes cadenassées au pont pour dénoncer les centaines de féminicides qu'on dénombre chaque année en France. Meurtres qui rentrent encore et toujours dans la catégorie médiatique de « crimes passionnels ». Et on se demande bien sûr ici quel genre de passion triste pourrait motiver ces actes. Bref. Essayons quand même de finir cette revue de presse sur une note un petit peu plus gaie. Est-ce que vous avez un petit peu faim ?
Oui, je crois qu'on a tous faim dans le studio. Il y a des madeleines qui circulent, mais ça suffit pas.
Bon, ça tombe bien si vous avez faim. Parce que.
Il n'y a plus de madeleines.
Eh ben, ça tombe bien. Je vais vraiment vous donner encore plus faim. Enfin, je ne sais pas, vous allez voir. Parce que 20 minutes nous propose en cette faste journée une recette aphrodisiaque de baba au chocolat, gingembre et céleri. Oui, j'ai bien dit céleri, imaginée par les chefs Laura Bonnard et Lucia Dominguez. Les babas au chocolat en forme cylindrique sont d'abord trempés dans un sirop neutre pour les ramollir. Une tuile à base de miel, à skip c'est un ingrédient aphrodisiaque, vient recouvrir le baba. Puis une tuile à laquelle les chefs viennent disposer un amelaka au gingembre. Alors je cite, un amelaka est une ganache inversée à base de chocolat blanc, explique une des chefs. Et enfin, pour couronner le tout, hein, on n'avait jamais demandé ça, mais des morceaux de céleri confit dans un sirop viennent agrémenter ce amelaka avec leur couleur verte. Bref, quand même, ça n'a pas l'air si mauvais que ça, en espérant que ça vous inspire un petit peu.
J'espère que ça vous a donné des bonnes idées pour le repas de ce soir.
Le journal radiophonique amplifié sur Transistor.
Et après cette revue de presse tout à fait adaptée à cette journée de Saint-Valentin, on passe tout de suite au billet politique avec Adèle. Bonsoir Adèle.